Pour parler de la Pologne, de la Sainte Pologne, il faut se donner quelques dates et beaucoup de géographie. Nous, Français, nous sommes des filles et des fils d'un hexagone qui a varié au cours des siècles. Mais finalement, au regard des autres pays, nous avons, il y a une sorte d'homogénéité française, voilà. Il n'en va pas de même pour la Pologne. La Pologne est une immense plaine d'ouest en est, du nord au sud. Notre géographie est différente, notre histoire est différente. L'évangélisation de la France commence, comme vous le savez, à la fin du premier siècle. Après la prise de Jérusalem en 72 par Titus, il y a des synagogues qui se répandent en Méditerranée et il y a des petites ecclésioles judéo-chrétiennes et qui arrivent à Marseille, sur la côte, au deuxième siècle, il y a Saint-Irénée, Saint-Potin, Sainte-Blandine à Lyon, martyr. Cette évangélisation demeure dans l'axe du Rhône durant les premiers siècles. Mais cette évangélisation, bien sûr, prend toute son ampleur avec le baptême de Clovis en 496. Et donc la France, on est, c'est vrai, on est, nous sommes la fille aînée de l'Église. Quand on reprend les dates, il n'y a pas de discussion possible. Alors, pendant ce temps, il y a les tribus slaves qui descendent du nord de la Russie et qui arrivent en Europe orientale. Alors il y a trois types de tribus. Yes. Et elles se mettent d'accord pour dire on est trop nombreux là dans cette région, il faut qu'on se disperse. Alors il y a ceux qui vont vers l'actuelle, la Bohème, la Tchèque. Il y a les Polonais qui restent sur place. Et puis il y a les Russes, R-U-S, qui vont plus à l'est. Et alors, pour les Polonais, il arrive cet événement un peu extraordinaire, il y aura miraculeux. Ils ne sont pas encore chrétiens, ils sont encore miraculeux. Ils voient un aigle blanc. Un aigle blanc. Voilà. Et désormais, le symbole, l'emblème de la Pologne, c'est l'aigle blanc. Depuis, personne n'a vu un aigle blanc. L'aigle allemand, il est noir. L'aigle russe, il est noir. L'aigle russe, un peu doré. Napoléon, l'aigle, il est doré. Bon, l'aigle blanc, c'est la Pologne. Alors, ce n'est qu'en 966, qu'un chef de tribu polonaise se convertit et il est sacré roi à Gniezno, qui est au centre de la Pologne, une petite ville au centre de la Pologne, et le primat de Pologne s'appelle et toujours le évêque de, il est d'abord évêque de Gniezno avant d'être archevêque de Cracovie mais d'abord évêque de Gniezno, puisque c'est là le baptême de la Pologne. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ce 966, peu de temps après, Léon III veut se convertir, Saint-Étienne d'Angers, le roi Saint-Étienne veut se convertir en 980, voilà. Et puis à Kiev, en Russie, le berceau de la Russie croyante, là aussi, il y a un roi en Russie qui se convertit, Vladimir. C'est ça, Vladimir. Vladimir, voilà. Vladimir,
le rouge.
Ah, ça, je ne le savais pas. Bon. Alors, au sein du XIe siècle, on peut dire qu'il y a une unité spirituelle en Europe. Il y a l'esprit, même pas. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il y a véritablement au sol du XIe siècle des racines chrétiennes dans toute l'Europe. C'est pas la peine d'avoir fait Sciences Po pour dire ça. Alors, cette unité est fragile, puisque comme vous le savez, il y a bientôt le grand schisme qui va arriver entre l'Orient et l'Occident. En 1054, c'est le grand schisme, Constantinople se sépare de Rome. Laquelle cassure se répercute par vagues successives dans l'Est et dans le Nord de l'Europe. Il demeure qu'on peut dire qu'en l'an 1000, l'Europe confesse la Sainte Trinité et la Vierge Marie. Et on peut dire que là, et c'est là qu'on peut dire, là, ces peuples ont commencé véritablement, alors, avec des différences, mais à vivre une vie chrétienne authentique, avec des variables, bien évidemment, mais là, nous sommes vraiment dans l'Europe chrétienne. Alors, du point de vue, revenons à la Pologne. La Pologne aura toujours du mal à se défendre, car à l'ouest, il y a les Prussiens, il y a les chevaliers teutoniques au nord, c'est-à-dire qui lancent des croisades encore contre les païens dans le nord-est de l'Europe vers la Courlande, par là. Au nord aussi, il y a les Suédois, à l'est, il y a les Russes, et aussi, dans ces années-là, au début du Moyen-Âge, les Tatars musulmans. Au sud, les choses vont mieux parce que d'abord, il y a les montagnes qui limitent. Il y a les montagnes des Tatras, et puis il y a un modus vivendi qui se fait avec les tribus slovaques. Les Slovaques, c'est un pays un peu compliqué du point de vue du relief, ce qui explique qu'ils arriveront à maintenir une relative indépendance par rapport aux Russes, par rapport aux Allemands, et par rapport aussi par rapport aux Turcs. Les Turcs viendront assez vite à bout de la Hongrie. Par contre, la Slovaquie arrivera à protéger son unité. Et alors, c'est là qu'on peut évoquer, dans la Pologne secrète, là, alors c'est là que je montre très bien ces deux personnes. C'est pour deux personnes, ça fait comme celle de la dentelle. Voilà. Alors là, vous avez. Oui, voilà. Alors, il faudra être mieux levé, bien sûr. Il faudrait vous rapprocher. Si vous voulez, ça c'est la carte de l'Europe. En 1914. Et à ce moment-là, il n'y a plus de Pologne. Il y a la Pologne, il y a la Russie, il y a les Allemands l'ont pris, les Autrichiens en ont pris. Et moi, j'ai passé au stabilo ce qu'est la Pologne. Et Jasna Góra, Częstochowa, la montagne. En fait, non, elle est claire. C'est quoi, donc, la montagne claire, mon frère. Elle est au peu près au milieu. Et c'est bon, vous voyez, on a vu que c'est bien eux, tenez, pour reposer là-bas, on a ça, vous avez. Merci au porteur. Et alors, la Pologne se regroupe au sud, en fait, où elle se sent mieux protégée, autour de Cracovie et de son fameux château, le Wawel. Vous connaissez Cracovie. Cracovie est le cœur du royaume de Pologne. Alors on pourrait dire, ah mais il n'y a pas d'accès à la mer, mesdames. Parce que là, alors ça c'est là où c'est intéressant, parce qu'on n'est pas du tout dans l'histoire de France avec nous notre hexagone que l'on défend pied à pied. Les gens du Nord ont eu cette astuce, on peut dire, astuce politique, humaine. Il y a les frontières, il y a les États, et puis il y a, et d'ailleurs on pourrait s'en inspirer aujourd'hui pour l'Europe, au lieu de voir si on est une fédération ou une confédération, il y a la ligne hanséatique. Est-ce que cela vous dit quelque chose? C'est-à-dire, ce sont ces marchands du nord de l'Europe qui se mettent d'accord pour, en fait, abolir momentanément les frontières. Et alors, c'est qui part, en fait, de la Hollande actuelle, puis on remonte Danemark, l'Allemagne, bien sûr, la Pologne, la Baltique, et on va jusque... Et alors, ils savent établir des tarifs, des droits de douane abaissés, et les Polonais, en fait, ce qui est astucieux, c'est que leur roi de Pologne, ils rentrent dans la ligue hanséatique. Alors, c'est pas, ils rentrent pas par la mer, mais ils rentrent par son fleuve, qui est la Vistule. Et la Vistule est une rivière hanséatique. Ce qui fait que l'influence du nord de l'Europe entre dans la Pologne par le grand fleuve qui est la Vistule. Alors, vous direz, à l'époque, tous les hivers, la Vistule, elle était gelée. Et après, c'est là. Après, le commerce reprend pendant toute la période d'été. Il y a un va-et-vient de bateaux qui arrivent quand ça arrive à être navigable. Alors, le royaume de Pologne s'étend aussi, encore une fois, ça n'a rien à voir, c'est le contraire de la France, par les seigneurs polonais, les petits seigneurs polonais se regroupent autour du roi, et en fait, si vous voulez, le roi de France, il a battu tous ces petits, les féodaux locaux, qui célèbrent dans Richelieu, qui se battent. Mais le roi de Pologne, il s'entend avec les seigneurs locaux. Et par contagion, en fait, on arrive à une certaine unité du pays. C'est tout à fait valable. Et on arrive au 7e siècle à avoir un pays unifié, mais avec une logique de vassalité, de tutorat entre les uns et les autres, qui fait qu'il y a un système politique et évidemment. Et ce qui en fait, c'est un pays qui respecte beaucoup les libertés des uns et des autres États. Et le roi de Pologne, il n'est pas désigné non pas hiérarchiquement, mais c'est ce n'est pas par hérédité, il est désigné par ses pairs. Il est élu. Quand il y a un roi de Pologne qui meurt, eh bien, les seigneurs de Pologne se rassemblent dans une grande plaine autour de Varsovie, une grande fête, et là, ils élisent leur roi. Ça marche bien jusqu'au XVIIe siècle. Mais lorsque la Suède attaque la Pologne au nord, à ce moment-là, cette monarchie qui fonctionnait, ce système impérial qui fonctionnait, va être redevable au plus fort qui entoure la Pologne. La Prusse, la Russie, les Suédois, et puis un peu plus lointain, la France, qui elle aussi veut aussi intervenir. On intervient tellement que nous avons un fils de Catherine de Médicis, Henri, qui est élu roi de Pologne. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Là où ça, c'est ça commence à être l'événement raté de la France et de la Pologne. Donc, Henri va être élu roi de Pologne, il part là-bas, mais trois mois après, il y a le frère Charles IX qui est mort, et Marie Médicis, la mère, rappelle son fils. Il dit non, faut que tu reviennes. Et les Polonais ne veulent pas le lâcher. Mais il arrive à s'enfuir. Et il revient en France et il sera le roi Henri III. Le premier, malheureux, il ira assassiné par un moine catholique. Alors, ajoutons aussi qu'il y a eu au XVIe siècle, à la fin du XVe, début du XVIe, une alliance matrimoniale très importante entre la princesse Edwige de Pologne et le grand-duc de Lituanie, Jagellon. Et alors, en 16e siècle, il y avait un rendement, c'est le siècle d'or de la Pologne, comme on a pu parler du siècle d'or de l'Espagne. Grâce à cette alliance, la Pologne et la Lituanie s'étendent de la Baltique, du nord de la Baltique, jusqu'à la mer Noire. Vous voyez, c'est un énorme pays, un grand pays, équivalent à l'Espagne d'alors. Enfin, l'Espagne avait aussi des conquêtes, etc. Donc la Pologne au XVIe s'ouvre aux influences et aux migrations de l'Ouest. Et alors là, c'est très important, là, pour la Pologne, dont on parle, c'est que le roi de Pologne a l'intelligence d'ouvrir son pays aux Juifs qui sont chassés d'Allemagne. Les Juifs étaient très nombreux dans la Rhénanie, en Alsace. Et là, il y a la réforme. Et la réforme, dont parfois on entend bien, eh bien, ils ont chassé les premiers, les protestants d'Allemagne et du nord de l'Europe, qui ont chassé les Juifs. Et les Juifs, ils sont allés où? En Pologne. Quand on dira plus tard, et on entend encore aujourd'hui, les Juifs sont en train de... les Polonais sont en train de... C'est eux qui les ont accueillis chez eux, par centaines de milliers. Pourquoi est-ce que les Juifs étaient si nombreux en Pologne, au sol de la guerre mondiale? C'est parce qu'ils étaient arrivés là au début du XVIe siècle. Donc Luther, hein, de la même façon que Luther fait la guerre aux Juifs, il fait aussi la guerre aux paysans. En même temps. Donc l'image d'une Pologne historiquement xénophobe, antisémite, véhiculée par l'Occident, est archi-faux. C'est vrai, par contre, par exemple, l'Espagne, oui, c'est vrai, l'Espagne est antisémite. L'Espagne a envoyé promener tous les maranes, les juifs du sud de l'Espagne. Alors, la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, cette période est marquée au nord de l'Europe par l'expansion de la Suède. Et les Suédois, alors les Suédois, vont occasionner une guerre terrible en Pologne, en Allemagne et jusqu'en France, en Alsace. On disait que les grands-mères alsaciennes, avant les Prussiens, hein, disaient leurs petits-enfants, si t'es pas sage, je vais appeler les méchants suédois.
Pléonasme.
Comment?
Pléonasme.
Même si les Polonais parviennent à chasser les Suédois, la Pologne perd son rang de grande puissance dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Sa monarchie élective est désormais soumise aux influences prussienne, autrichienne, russe. Et c'est ici qu'il faut parler, bien sûr, de Yasna Gorbatchev. Alors là, j'ai pas été compliqué, j'avais des notes, mais là, j'ai été chercher dans Wikipédia, que vous pourriez faire, bien sûr, c'est pas compliqué. Bon. Yasna Gorbatchev, en polonais, Yasna Gorbatchev, en latin, Clarus Mons, vous voyez, Claire Mons. C'est pas de moi, vous voyez. La renommée de sanctuaire est liée à la présence dans ses murs de l'icône de la Sainte Vierge, la Madone Noire, qui, selon la tradition, écoutez bien, aurait été peinte par l'évangéliste Luc sur la planche de la table où priait et prenait la nourriture la Sainte Famille. Quand on dit ça, si vous voulez, eh bien, accueillons cette tradition. Voilà. Là, cette vierge d'Ara aurait été peinte sur la table de la Sainte Famille. Ça fait partie de ces traditions que nous portons. Voilà. disons, n'allons pas chercher midi à 14h pour expliquer les choses. Alors, le sanctuaire attire tous les ans plein de pèlerins, voilà. Le monastère a été fondé en 1382 par le roi Ladislas. L'icône de la Vierge est installée en 1384, ce qui veut dire que, vous voyez, il s'est passé du temps avant d'arriver. Mais c'est dans cette période assez florissante que cette Vierge noire est installée. Voilà. Et alors, on la reconnaît facilement aux deux balades, vous voyez. Je l'ai là, mais non, j'ai pas une image assez. Voilà l'image. C'est une Vierge à l'enfant. Voilà. Dorée autour. Il y a du rouge. Et puis, il y a le beau visage de la Vierge. Et là, vous avez deux balades, sans ignorant. Voilà. Alors, j'avais toujours cru que c'était les Cathares qui avaient ça, mais non. Ce sont les Hussites. Les Hussites. En 1430, le jour de Pâques, elle fut pillée, elle fut profanée, cette icône, mais elle fut restaurée à la cour du roi Vladislav Jagello. Voilà. Ce sont les Hussites. Alors les Hussites, Jean Hus, c'est un prédécesseur lointain au XVe siècle de Luther. Alors, il n'a pas vécu longtemps, Jean-Hus, parce qu'il a vite été pris par, les latins et les catholiques, il a été brûlé, hein. Mais les frères ici, qui se recommandaient de lui, ont eu une action assez terrible dans la Bohème et dans la Moravie. Ils ont eu une telle action qu'on peut dire que, des fois on se lamente, vous savez, on se lamente sur notre pauvreté spirituelle partout en France, mais les plus pauvres en Europe de l'Ouest, alors maintenant on ne dirait plus pas ça, mais les plus pauvres, c'était la Bohème et la Moravie. Parce que c'est ici ce protestantisme des origines, on peut dire, a été particulièrement redoutable, terrible. Alors après, il y a eu la réforme, la contre-réforme, les jésuites ont essayé de redynamiser l'église catholique en Bohème et Moravie, mais ils ont eu beaucoup de mal, en particulier dans les élites tchèques, qui sont, encore une fois, très distantes de la foi chrétienne. Et c'est bien pourquoi, je ne sais pas si vous savez, il y a la fondation, non, il y a l'abbaye de Sept-Fonds, hein, dans l'Allier, il y a une école dans les années 70, ils ont eu beaucoup de recrues, et à la chute du mur en 90, ils sont allés fonder un monastère, refonder un monastère en plein cœur de la Bohème, au nord de Prague, dans une région où il y avait plein de choses. Et cette abbaye a fait marche très fort, et il y a des semences de vocation de la vie. Et qui vont maintenant à cette pente, parce qu'à cette pente, ils commencent à vivre. Je crois que ça doit être ça. Le David. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Il dit français. Il n'osait pas le dire, mais lui, il a fait du mieux. Oui, non, mais c'est que vous. Les accueils des monastères, ils sont là. Bon, nous allons revenir sur Tagora. Alors, notre âme de Tagora. Et non seulement le cœur religieux du pays, mais aussi le symbole de sa liberté politique. Bientôt, la Pologne, victime d'un système politique néfaste, s'affaiblit et convoitée par ses puissants voisins, la Prusse, la Russie. Face aux pro-russes, Stanislas Poniatowski essaie une alliance des nobles, ce qu'on appelle la Confédération de Bar, Et il essaye de tenir le coup, là, justement dans la forteresse de Jasenkovac, et il fut vaincu en 1772, peu avant le premier partage de la Pologne. Alors, la Sainte-Pologne, elle disparaît en 1773. Enfin, il y a trois étapes, hein. 1973, 77 et puis 90, voilà. Ces trois pays, la Russie, la Prusse, l'Autriche, se partagent la Pologne. Mais le résultat ne sera pas le même pour les trois. Parce que si, avec l'Autriche, les Polonais parviennent à garder une indépendance culturelle, sociale, ils arrivent à s'entendre avec les Autrichiens, l'aristocratie polonaise est très bien reçue à la cour de Vienne. L'empereur François Joseph aimait beaucoup les Polonais, donc ça se passe de la meilleure façon, si vous voulez. On ne peut pas dire que l'Autriche occupe la Pologne. Et c'est là où, enfin, c'est une incise, c'est plus qu'une conférence, c'est un livre entier à écrire sur l'Empire austro-hongrois qui avait quand même une capacité d'intégrer les valeurs culturelles, sociales de la multiplicité de ce pays. Par contre, les Prussiens, il faut devenir Prussien. Les Russes, voilà. Non, pas. Et là, il y a un dicton polonais qui dit: si les Allemands nous attaquent, nous perdons la vie, les Russes nous attaquent, nous perdons le bras. Allez. Donc, les partages, et alors là, le grand vainqueur, c'est donc la Russie. Et là, c'est un peu douloureux à dire, parce que nous sommes des chrétiens. C'est que les Slaves, les Russes, considèrent qu'un Slave doit être orthodoxe, doit adhérer à la force. Et c'est ça, les Slaves, les Russes, parce que les Polonais sont les Slaves, les Tchèques sont les Slaves, les Slovaques sont les Slaves. Eh bien, vous avez bien vu d'ailleurs, avec l'emprise communiste en 1945, tous ces pays correspondaient à l'orthodoxie. En fait, Yalta, Staline, il n'a peut-être pas dit comme ça, mais il a voulu le monde slave pour lui. Alors, à l'intérieur de cette histoire entre les Slaves catholiques et les Slaves orthodoxes, c'est d'ailleurs une idée en un type de vie, vous savez que la guerre la plus terrible, ça a été entre la Serbie et les Croates, les Slaves catholiques, croates, et les Serbes orthodoxes. Là, ça a été terrible, très difficile. Ils sont très durs entre eux. Il faut comprendre ça. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Reprenons l'histoire. Et alors, c'est là qu'il faut parler d'un phénomène qui est extrêmement important. Et alors, en France, on n'a jamais... on est incapable de comprendre ça. C'est le problème de l'uniacisme. Ça vous dit quelque chose? Bon. Alors, lorsque les Polonais avancent en terre orthodoxe, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque les Autrichiens avancent en terre orthodoxe, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait Rome devant ces... Eh bien, Rome a eu une idée, quand même, on pourrait dire, géniale, et qui a été les opérateurs de ça, c'est les pères jésuites, qui ont dit à ces populations orthodoxes, quel que soit le lieu, vous êtes orthodoxes. En fait, on a la même foi, mais la grosse différence, c'est que vous ne voulez pas reconnaître la primauté de l'évêque de Rome. Or, l'évêque de Rome, le siège de Pierre, c'est le siège de Pierre, voilà, c'est là qu'a été martyrisé, au point de martyrisé, Pierre et Paul. Donc, soyez fidèles au siège de Pierre. Et ces populations orthodoxes disent, banco, mais nous gardons nos rites orthodoxes, nous gardons nos prêtres Marie, les évêques, on les prendra dans le monastère. Bon, je pense que nous l'avons. Et donc, c'est la naissance de l'initiative. Et Jean-Paul II, plusieurs fois, a rappelé justement cet accord qu'on appelle l'accord de Brest. Brest, Litovsk. Comment ? Voilà, merci. Mais le problème, c'est que les Russes, qui, auxquels ça a été imposé, n'accepteront jamais cette histoire, ce traité de Brest-Litovsk, et puis de tous ceux qui vont suivre après en Roumanie et ailleurs, en Transylvanie. En Transylvanie, l'Autriche va avancer, les Hongrois vont avancer, ils vont trouver des populations orthodoxes, et ils vont leur dire. Et donc, ça va être l'Ignatie, ça va être l'église gréco-roumaine, ou l'église grecque, gréco-ruthène, gréco-polonaise, gréco. Voilà. Et donc ça, c'est une réalité forte de l'histoire qui influence les communautés religieuses polonais-lituanie en 1600, donc au milieu du XVIIe siècle. Donc vous avez une moitié, ils sont catholiques, mais vous avez un bon quart, enfin pas tout à fait un quart, une moitié. Ce sont des orthodoxes unis à Rome, mais avec leur propre. Et puis alors vous avez alors des orthodoxes, il y en a, mais en plus petit nombre, vous avez des luthériens, des calvinistes, assez grand nombre, des juifs, bien sûr, et puis les frères Moras, c'est les disciples, les arméniens. Ah oui, il y en a toujours, il y en a toujours. Mais alors, ils ont eu.
Le terme mignon, c'est un terme très péjoratif.
Oui, oui, je sais. Mais, parce que c'est comme si vous disiez collabo.
Ah oui.
Pour les Russes, c'est gréco-polonais, gréco-roumain, ce sont des collabos de Rome.
Oui, c'est ça, un peu.
Voilà. Et alors, le Jean-Paul II, il a essayé de revenir, il a essayé de. Il a été en Ukraine, et là il y a beaucoup de gréco-catholiques, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais c'était. Il avait à cœur de faire ça, mais il n'a pas pu aller à Moscou. Parce que ça, si vous voulez, les Russes, et encore les jours d'aujourd'hui, ne peuvent pas supporter ça.
En 1900, on a oublié tous les prêtres gréco-catholiques, pensé dans l'église orthodoxe. Et donc certains sont allés en prison, et d'autres se sont dit, pour sauvegarder mes paroissiens, je vais faire semblant de rentrer dans l'orthodoxie. Qui explique en 1989, après durant la perestroïka, etc., quand il y a un début de liberté religieuse, etc., beaucoup dans l'Ukraine, notamment de la partie ouest, sont revenus officiellement à l'Église catholique, alors que.
Gréco, à l'Église gréco.
Alors qu'ils étaient en quelque sorte des sous-marins cachés de l'orthodoxie.
C'est une histoire extrêmement douloureuse. Oui. C'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai connu à Paris un jeune prêtre, alors on était en Roumanie, mais c'était la même chose. Il était gréco-catholique. Non, non, il était. Ses parents étaient orthodoxes. Mais lui, il est rentré au séminaire Église catholique, pour lui, Rome représentait Dieu. Ses parents étaient boulangers. Lorsque le village a su que le fils du boulanger était rentré au séminaire Église catholique, et bien le fond de la boulangerie est tombé. Il continue à partir. Personne n'est venu acheter le pain. Vous voyez, pour dire que, si vous voulez, devant ces réactions terribles, vous voyez, alors, il faut, moi je dirais, je respecte le combat. C'était stupide, ce petit que vous voulez, mais moi je suis vraiment un petit français occidental, je ne connais rien. Donc je m'impose, je raconte l'histoire, mais je m'impose le silence, parce que je ne peux pas juger. C'est tellement, on sent que la blessure est tellement profonde, c'est ce que vous dites, c'est que, voilà, c'est comme ça. Alors comment nous pouvons éventuellement aider, mais surtout pas en disant, oh putain, je suis d'accord, ah bah quand si c'était le bon chrétien, je ne serais pas d'accord. C'est là où il y a une fois à avoir une vraie humilité quand on parle de ces choses-là.
Il y a trop de morts, trop de violences. Il y a pas mal par là, les bébés se sont déchirés.
Voilà. Non, parce que, si vous voulez, c'est facile d'ironiser. Il faut être capable de voir le drame, le malheur humain que ça représente, et puis tout qui se là, qui est là. Et ça, Jean-Paul II, il a lutté, il a paru. Un autre. C'est la blessure de l'Église.
Ici,
en gros,
nous avons eu un prêtre gréco-catholique du Front ukrainien.
D'accord, ah ben.
Parce que lorsqu'il a été abandonné, donc je vous ordonne de partir vers l'Occident de façon à ce que vous vous occupiez des Ukrainiens qui se sont évadés et qui sont là-bas en Occident sans notre liturgisme. Et il est venu spécialement, il est invité à et puis après ça, n'ayant plus de logement, il est venu à Lyon, il a manqué une femme.
D'accord.
De l'Église gréco-catholique, cette richesse de l'Église qui vit des deux mouvements, comme disait Jean-Paul II, le mouvement occidental et le mouvement occidental. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, catholiques, nous avons cette richesse vraiment merveilleuse de vivre cette universalité de l'Église, n'est-ce pas, qui se réalise dans des temples, dans des hommes et des femmes, des enfants. C'est une beauté de l'Église.
Et
en même temps, il faut prier pour
notre. Et en même temps, il faut constater l'histoire, ne pas la juger, et dans le même temps, vraiment être actif dans la prière, donc des modestes actions, pour pouvoir aider à une place très modeste. Autre exemple, si vous voulez, par exemple, les orthodoxes disent de notre Père pendant la divine liturgie. Je ne sais pas si c'était Kirill, le patriarche de Moscou, est venu à Paris, il est venu, alors, il a été dit à Moscou que le patriarche, il ne venait pas rencontrer l'archevêque de Paris, le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Antiguet. On a dit, le patriarche de Moscou est venu vénérer la vraie croix à Paris. Donc il est venu vénérer la vraie croix, et puis il y avait un temps de prière. Et donc je crois que c'est le cardinal, ou un évêque auxiliaire, commence à dire notre Père en latin. les orthodoxes, avec les Français qui disent. Je crois que c'est le recteur de la cathédrale qui prend une grande gueule, le père. Il était bien. Bon, écoutez, hein, d'ici, ici, à l'Espagne de Paris, on vit ensemble notre père. Et ils ont dit. On ne peut pas, nous, on ne peut pas juger. Il faut le savoir, et puis, quand on a l'occasion de rencontrer, si on peut faire un pas.
Oui,
c'est évident. Mais c'est vrai que quand il se cache derrière l'iconostase, moi je me dis, je suis pas chez moi, quoi. Vous savez, l'iconostase, c'est-à-dire qu'ils disent la messe, ils consacrent les hosties, mais ils sont derrière c'est la barrière, on ne voit rien. On entend. Bon. Alors, un mot de la relation entre la Pologne et la Russie. Alors, il y avait eu, vous savez que Napoléon a essayé de recréer un minimum de Pologne, le Grand-Duché de Varsovie. Voilà. Bon, ça n'a pas été très malheureusement. Napoléon est tombé, et donc le Grand-Duché de Varsovie, au congrès de Vienne, les puissances centrales ont dit, bon, c'est fini, hein, la récréation polonaise est terminée. On est revenu aux frontières. Mais, quand même, comme vous le savez, au XIXe siècle, il y avait les idées libérales et révolutionnaires ont avancé, et en 1830, il y a eu des révoltes dures contre la Russie, ça a été maté, et puis surtout en 1863. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une émigration polonaise en France très importante, une émigration en particulier des auteurs, des poètes et des musiciens. Et donc c'est la raison pour laquelle il disait. J'ai le temps, quoi. On peut quand même écouter la polonaise et polonaise de Chopin. Voilà. C'est quand même vraiment une musique romantique qui, animée d'un souffle romantique et un souffle de nostalgie de la terre du pays natal. Alors, le curieux de l'histoire, c'est que son père, des Français, Pierre Chopin, il était donc polonais par sa mère, mais son père vivait en Pologne, et son père a été précepteur de. La maîtresse de Napoléon polonaise, Wieszynska. Wieszynska. Vous avez polonais. Bon, et donc, ça ne peut pas réussir son professeur. Oui, donc l'Autriche, on peut dire que ça s'est toujours bien, ça s'est plutôt très bien passé. Voilà. L'empereur François Joseph aimait beaucoup les Polonais. Le dernier empereur autriche, qui était 3 ans, 4 ans, empereur, l'empereur Charles, avait essayé, avait imaginé une fédération danubienne. Hein, tous les États auraient eu leur, vraiment leur indépendance, leur autonomie. Il n'a pas pu le faire. En particulier, là, c'est Clémenceau qui préalablement a voulu qu'on n'entende plus parler de l'Autriche-Hongrie. Et donc, il a favorisé la naissance de tous ces États, lesquels la France pensait pouvoir s'en faire des alliés, et on a dit qu'il en avait. Et puis, ces États, par exemple la Yougoslavie, ce pays, s'est morcelé. Et c'est pas sans raison, d'ailleurs, que Pierre Ier de a été assassiné à l'Espagne. C'était vraiment le retour. Le coup de poing contre la France, vous voyez. La France, là, nous portons une grave responsabilité, lui, Clémenceau, et puis son secrétaire général du Quai d'Orsay, Philippe Berthelot, qui ont une action tout à fait décisive sur là-dessus. Et la France, et assez rapidement, la France et l'Angleterre se sont opposés après le traité de Versailles, parce que la France voulait arrondir la Pologne, voulait arrondir la Tchécoslovaquie, et l'Angleterre disait attention, il ne faut pas non plus que la France prenne toute sa place dans l'Europe centrale. Et ça a été un jeu d'influence extrêmement compliqué. Nous avons même failli avoir dans le sud de la Pologne, les armées anglaises et françaises étaient là et on était prêts à en venir aux mains, parce qu'on voulait arrondir la Pologne, et puis les autres. C'est une histoire qui n'a pas encore été vraiment faite, cette histoire. Parce que pour le Français moyen, le 11 novembre 1918, la guerre est finie, tant mieux. Mais à l'Est, mais elle continue très longtemps. Les Polonais, qui viennent d'être, grâce à leur chef Pilsudski, ils profitent de l'occasion pour essayer d'agrandir la Pologne vers l'Est, mal mis en France, il y a un retour de flamme, les Russes s'attaquent, et en 1920, à l'été 1920, bataille de la Vistule. Voilà. Et ils vont te dire que c'est la dernière grande bataille de cavalerie de l'histoire. Et donc là, je recherche, oui. La veille de la bataille, les évêques se réunissent précisément à Częstochowa. La Première Guerre mondiale va permettre à la Pologne de retrouver son indépendance, mais en 1920, l'armée rouge menace Varsovie. L'épiscopat polonais se réunit alors à Czernogora le 27 juillet et renouvelle la consécration à Marie. La consécration à Marie. Des milliers de pèlerins affluent vers le sanctuaire pour demander à leur souveraine la libération du pays. Donc nous sommes le 27 juillet. Et le 15 août, jour de l'Assomption, ils sont exaucés, c'est le miracle de la Vistule.
Grâce, le maréchal Pilsudski a été aidé par un général français, le général Végan, qui était son conseiller militaire, et de l'autre côté, du côté de l'Est,
La France, au courant que la Pologne était attaquée, a essayé, puis a envoyé le maréchal des Gaules, Gloire, Gloire de 14, flanqué d'un jeune capitaine qui s'appelait De Gaulle. Voilà. On ne peut pas dire que c'est grâce à des Gaules que, enfin, c'est vraiment la cavalerie polonaise qui a été plus forte que la cavalerie russe. Je crois qu'ils avaient voulu dire, ils étaient très honorés d'accueillir le général Degant. Ils avaient dit au général Degant, ben, prenez le commandement. Et Degant avait dit, écoutez, on ne change pas de cheval au milieu de la rivière. Voilà. Parce que c'était quand même un cadeau empoisonné. Vraiment, la Pologne a été envahie, littéralement envahie. Mais on peut penser aussi que, comme toute cavalerie, la cavalerie avance, mais l'intendance n'a pas suivi. Bon. Alors, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, et si vous êtes intéressé par l'histoire de la Pologne, bah, allez sur l'île Saint-Louis. Je vous rappelle, l'île de la Cité, c'est Notre-Dame, mais allez dans l'île Saint-Louis, et au bout de l'île Saint-Louis, à l'opposé, vous avez le magnifique hôtel Lambert, qui a appartenu justement à partir des années 1830 à un prince polonais, et des marques et qui était le responsable, un peu, c'était dans ses chez lui que se réunissait l'opposition polonaise. Et puis, il y a aussi toujours en Saint-Louis la bibliothèque polonaise, qui est sur le quai d'Orléans, je crois, voilà. C'est un très bel immeuble. Il y a un fils de Czartoryski qui est rentré chez les Salésiens et qui malheureusement est mort à 27 ans, voilà. Et dans l'église Saint-Louis-en-Lille, il y a une plaque de marbre en mémoire de la famille des Czartoryski. Chopin, naturellement, c'est l'immigration polonaise avec. Enfin, alors, dans cette immigration, Louis-Philippe accueille tout ce monde-là. Par contre, il y en a un qui va être un peu timide, c'est Napoléon III. Parce que même s'il a fait la guerre aux Tsars en Crimée, quand même, il veut quand même se garder quand même de pas trop ennuyer les Russes du point de vue de l'intérieur. Et Minkiewicz, qui avait été nommé professeur de littérature polonaise au Collège de France, est démis de ses fonctions par l'empereur Napoléon III. Et il se retrouve petit bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal. Comme ça, il y avait une opinion publique qui soutenait la Pologne, il y a toujours eu un courant d'opinion polonophile en France, mais avec des résultats mesurés. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'après, ça va se poursuivre. Ce sentiment polonophile mesuré, puisque vous savez qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, hein, on disait, on ne va pas mourir pour danser. Mm-hmm. Voilà. D'ailleurs, on est pas mort. On est mort après. Pas mort pendant. Alors, je voudrais revenir par rapport au monde de la question juive. La Pologne, de 1918, et en plus de 1920, a eu des limites, des frontières assez mouvantes. Elle s'est quand même étendue vers l'Est. Vous avez la ville, alors en allemand c'est Lemberg, en polonais c'est merci. Voilà. Donc là, on est dans l'Ukraine actuelle. Hein. Bon. Et d'ailleurs, alors c'est, et là, il y a beaucoup justement de catholiques romains, il y a des orthodoxes bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de gréco-catholiques. Hein. Et ça, alors, vous voyez, quand on dit toujours la Pologne, c'est les catholiques, la Pologne n'a jamais été aussi catholique que grâce à Staline en 1945. La politique des communistes a été de dégager tous les... de se recentrer la Pologne catholique. Ah ben oui, c'était, vous avez une translation énorme de Polonais de l'Est de l'Ukraine, qui étaient des Polonais, et on les amène... Alors, les Allemands, ils avaient été dégagés de la Silésie, donc on amène les Allemands... les Allemands sont chassés, et les Polonais catholiques d'Ukraine, on les amène dans la Silésie, dans une ville, Breslau, ou non, Breslau, voilà, c'est bien, merci, voilà. Pilsudski avait eu une idée beaucoup plus fédérative, il voulait que la Pologne soit multi-ethnique, multi-religieuse. Et ça correspond à la République polonaise des années de 1920 à 1940. Et quand on dit ça, quand on dit les Polonais, ah les Polonais, c'est évident ça, monsieur madame. Alors, c'est vrai que bon maître en Pologne, des sentiments anti-soviétiques. La question que je vous pose, votre grand-père, pendant la guerre, pendant la guerre d'Algérie, il était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Antidrapeur. Si l'anti, c'était vraiment la chose la mieux partagée, en Europe occidentale et un peu partout. Dans les années 20, encore une fois, la politique de Pilsudski est d'avoir une société ouverte, et elle l'est. Il y a la crise de l'honneur, il y a la crise des colonies, il y a la montée des pays en Allemagne. L'Allemagne, clairement, est pilote, on va faire, mais c'est vrai que dans les années 30, il y a des mesures qui sont prises pour limiter l'accès dans l'armée, dans la justice, dans l'université. On commence à entendre parler de numerus clausus pour les juifs. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi en Hongrie. C'est-à-dire, alors, c'est la même chose. En Roumanie, le Titulescu, autre dictateur, c'est la même chose. Il y a une montée antisémite partout en Europe. Et chez nous aussi. Donc quand on dit que... Oui, oui, non, mais c'est important de le dire, oui, c'est tout à fait. Donc, il se trouve que, effectivement, c'est de fait en Pologne, pour les raisons historiques que j'ai dit au départ, qu'il y avait, de l'ordre de 6 millions de juifs, à peu près un sixième de la population en Pologne, et en 1920-1940, c'est vrai. Donc, tout naturellement, quand il va y avoir les catons, c'est eux qui vont payer le prix. Et c'est vrai qu'il y a 3 millions de juifs polonais qui vont mourir. Mais dans le même temps, il faut ajouter, et ça on ne dit pas, c'est qu'il y a 3 millions de Polonais non juifs qui vont aussi périr. Alors 3 et 3, ça fait 6. Et puis il y aura tous les juifs d'Ukraine que l'on commence, on a commencé à découvrir, parce que là, il n'y a pas seulement les camps de concentration en Pologne, il y avait aussi ces massacres, comme ça, au jour le jour. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la Shoah barbare. Donc, on voit bien, c'est important de dire ces choses-là, parce que ce ne sont pas du tout évidentes dans notre... Alors, oui, alors 1943, c'est la prise par les nazis du ghetto juif de Varsovie, les deux dates, il faut savoir, on peut les confondre, vous ne savez pas, il y a donc l'armée allemande et les nazis en particulier occupent et détruisent, mettent à feu le ghetto de Varsovie en 1943, à ne pas confondre avec l'été 1944, où il y a l'insurrection de Varsovie par l'armée secrète polonaise, avec une armée rouge qui est stationnée de l'autre côté de la Vistule, l'arme au pied, et qui ne bouge pas. Ne bouge pas. Il laisse les Allemands écraser l'armée polonaise, ce qui va permettre, dans un second temps, à l'armée rouge de dire, voilà, c'est nous les maîtres du terrain, et puis ils vont quand même bien trouver, à Lublin, ils vont trouver un certain nombre de Polonais qui vont être d'accord pour faire une réponse.